Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote !
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Victor Bache est mort au mois de janvier 1944, assassiné avec son épouse par la milice de Lyon, dans laquelle sévissait alors Paul Touvier. Victor Bache avait été en 1898 l'un des fondateurs de la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen. Philosophe dont les travaux sur l'esthétique notamment marquèrent son époque, Victor Bache reste aujourd'hui encore l'une des figures les plus emblématiques de l'intellectuel engagé. En 1991, Anice Clément lui consacrait un profil perdu en deux volets. La seconde de ces émissions que nous allons entendre maintenant relatait ce qu'avaient été les combats de Victor Bache dans les années 30 face à la montée du fascisme. Ce qu'avait été l'action de ce socialiste lucide dès le départ sur la menace que représentait le nazisme, qui dut alors s'affronter aux pacifistes radicaux, aveugles quand il n'était pas complaisant, au sein de sa famille politique et de la Ligue des droits de l'homme, dont il était le président depuis 1926. Pour évoquer la personnalité de Victor Bache et son rôle durant cette période déterminante de notre histoire, Anice Clément interrogeait l'historien Pascal Horry, le journaliste Christian Gélène, la philosophe Elisabeth de Fontenay, Marianne Bache, belle-fille de Victor Bache, l'avocat Yves Jouffa, alors président de la Ligue des droits de l'homme, et l'historienne Madeleine Reberioux, qui devait lui succéder peu après. Profil perdu, Victor Bache, deuxième partie, une émission diffusée pour la première fois le 14 mars 1991, dans laquelle on peut entendre dans un document rare la voix de Victor Bache.
Profil perdu, Victor Bache, deuxième émission, par Anice Clément et Arlette Dave.
Il me semble que par les lourdes années que nous vivons, le cœur des hommes se soit durci et soit devenu insensible à tout sentiment de pitié et de tendresse humaine. Des milliers et des milliers d'êtres, exempts de toute faute, sont criminellement humiliés, offensés, torturés, broyés dans leur corps et dans leur âme. Des femmes et des enfants sont déchiquetés par des bombes. Des régions entières sont décimées par la faim. De longs cris de douleur s'élèvent. À Barcelone, 15 000 victimes en 17 mois. À Canton, 5 000 morts en une seule journée. Des tribunaux de Rome, des camps de concentration d'Allemagne, des universités de Pologne et de Roumanie, sourdes des voix qui appellent à l'aide. 8 000 suicides depuis 2 mois dans la seule ville de Vienne, hier si rieuse, si dansante. Hier, on a pu lire dans les journaux allemands que des 6 000 élèves juifs qui fréquentent les écoles de Vienne, seuls 450 seront admis à la rentrée prochaine. Que deviendront les 5550 autres ? Tant de forfaits se sont accomplis depuis le grand massacre que les opinions publiques, saturées d'horreur, n'ont plus la force ni la volonté d'une révolte agissante. Alors qu'au XIXe siècle, la France et l'Angleterre se sont dressées contre les tortionnaires de Vienne, de Saint-Pétersbourg, de Constantinople, que les Italiens, les Polonais, les Hongrois, les Juifs, les Finlandais, les Arméniens, les Bulgares ont trouvé des avocats passionnés, même parmi des hommes d'État responsables, comme un Gladstone. Aujourd'hui, les grands criminels de Rome, de Berlin, de Burgos, de Tokyo peuvent affamer, torturer, assassiner des milliers d'innocents sans que la conscience universelle les flétrisse et tente de les arrêter dans leur marche sanglante. Seule la classe ouvrière et les partis qui les représentent font entendre des protestations. Quant à la bourgeoisie libérale, ses sympathies sont hésitantes, et c'est dans leur sein qu'il s'est trouvé des hommes pour trouver des excuses aux massacreurs et même aux hontes pour encourager les démocraties à pactiser avec eux. Et ma pensée se reporte 40 ans en arrière. Un officier juif a été condamné illégalement et injustement. À la voix de quelques intellectuels, le pays tout entier, le monde tout entier s'est dressé pour libérer le capitaine Dreyfus. Aujourd'hui, ce sont des centaines de milliers d'innocents qui crient merci. Et l'on se bouche les oreilles pour ne pas entendre leurs supplications. Nous allons à nos occupations quotidiennes et à nos frivoles plaisirs sans participer, fût-ce seulement par la pensée, à la tragédie, aux tragédies qui se déroulent autour de nous. Le général Göring a déclaré que, en 4 ans, il faudra que Vienne, qui en contient 230 000, soit entièrement vidée de ses juifs. Que vont-ils devenir ? Le monde entier permettra-t-il qu'ils soient lentement asphyxiés, comme les juifs d'Allemagne ? Ou les obligera-t-il au suicide collectif qu'avait prédit et préconisé pour toute l'humanité le philosophe Édouard de Hartmann ? Victor Bach, 26 juin 1938.
Né à Budapest en 1863, dans une famille hongroise, Victor Bach, par son père adoptif, correspondant à Paris d'un grand journal viennois, sera élevé dans un milieu artistique et littéraire et placé sous le signe d'une double culture. Passionné de philosophie allemande, il sera à Rennes et à Paris un professeur original et enthousiaste, sensible à la beauté, à laquelle il a consacré une grande partie de sa vie. C'est l'affaire Dreyfus qui fait de lui un militant, qui le lance dans un combat pour la justice, qu'il mènera jusqu'à sa mort, faisant sienne la phrase de Ferdinand Buisson « Il y a une affaire Dreyfus, partout où il y a une femme qui souffre, un enfant sans instruction, un vieillard sans asile. Combat pour la justice et pour la paix, car Victor Bach, président de la Ligue des droits de l'homme, sera confronté à la plus rude des batailles, celle de l'antifascisme. » Militant, démocrate, travailleur de la paix universelle, instigateur de l'unité, rassembleur, défenseur des droits de l'homme, esthète et esprit critique, Victor Bach a toujours œuvré pour le libre épanouissement de l'individu. Marianne Bach.
Je connaissais Victor Bach depuis mon enfance, puisqu'il avait lié une très profonde amitié avec mon père Marius Moutet, et que nous avons passé de nombreuses vacances ensemble. J'ai épousé par la suite son fils, en 1928. Nous avons été mêlés beaucoup à sa vie familiale, moins à sa vie politique, puisque, étant tous deux médecins, nous avions notre activité et une vie très occupée. Ce que je peux dire de son caractère, c'est que c'était un homme passionné, passionnément attaché à sa famille, passionnément attaché à son métier, à son enseignement, et qui arrivait à se partager entre famille, enseignement et travail personnel, puisqu'il a produit énormément d'œuvres à la fois philosophiques et de critiques artistiques. Tout ceci sans jamais priver les siens de sa présence et d'un amour très profond. Il a eu au cours de sa vie des drames tragiques, puisqu'il a perdu une fille de 16 ans d'une typhoïde et un fils de 20 ou 21 ans, extrêmement brillant, remarquable, et qui est mort pendant son service militaire. Je ne me souviens plus si c'était d'une appendicite méconnue ou d'une maladie infectieuse mal soignée. Et tout ceci fut tout à fait tragique. Couronné par la mort de mon mari, à la fin de l'exode, qui se suicida par désespoir, ayant trop su ce qu'était le nazisme et ne pouvant admettre que la France tombe sous la coupe des nazis. Il était extrêmement proche de la fille qui lui est restée jusqu'au bout, Yvonne, qui avait épousé Maurice Alvax. Ceci dit, c'était un homme qui avait du caractère et qui, dans une certaine mesure, était un tyran domestique, car il avait la prétention de tout régenter.
Il parle de lui-même en termes qui sont toujours extrêmement émouvants. Il dit de lui-même, au congrès de 1927 de la Ligue, il vient de devenir président cette fois, et non plus vice-président, « Je ne suis pas un être de pure raison. Je me sens le cœur plein d'amour pour les hommes, et je sais mal haïr. » Et il le dira à plusieurs reprises dans sa vie que sa faiblesse à lui, c'est de ne pas savoir haïr, c'est de ne pas savoir combattre des adversaires, y compris parfois à l'intérieur de la Ligue, qui, eux, n'hésitent pas à le combattre et à employer des procédés qui lui déplaisent profondément. Il dit en même temps de lui-même, il sait, il se connaît, qu'il est un président intransigeant, rude, mauvais coucheur, parlant haut et tapant du pied. Et il fait cet autoportrait de lui-même au congrès de 1931. Donc à la fois cette générosité du cœur, et puis ce caractère de rudesse extérieure, de difficulté à s'exprimer toujours avec les règles de la courtoisie pourtant habituelle dans l'université, et son habitude, comme il dit, de mauvais coucheur. Donc c'est un personnage très contrasté, très riche, très fascinant. Il était aussi, par rapport aux femmes, très machiste, tout en étant en même temps très partisan du droit des femmes.
Le peuple de Paris salue ses frères de province. Et nous allons entendre maintenant les responsables du Rassemblement populaire. La parole est au professeur Victor Bache, président de la Ligue des droits de l'homme, au nom du Rassemblement populaire.
Monsieur le Président du Conseil, mes chers camarades, citoyennes, citoyens, 14 juillet 1935, la levée en marche du pays républicain, dressée d'un irrésistible élan, pour défendre les conquêtes de la démocratie contre la tourbe des factieux et pour abolir les bastilles qu'avaient laissées debout les révolutions de 89, de 93, de 1830, de 48, de 71. Le serment solennel prêté par tous les partis et toutes les organisations de gauche de rester unis jusqu'à ce que ce soit cristallisé dans les faits les mots d'ordre du rassemblement, la sauvegarde de la liberté, le pain assuré à tous, la carrière ouverte à la jeunesse, la garantie de la grande paix humaine.
En 1928, Victor Bache est professeur à la Sorbonne, où il sera le premier à enseigner l'esthétique. Deux années auparavant, en 1926, il avait été nommé à la présidence de la Ligue des droits de l'homme. Pascal Horry.
Oui, c'est à la fois un hommage à la génération des Dreyfusards, qui est maintenant installée, presque installée au sommet du pouvoir, 1924-1925, le cartel des gauches a exercé les responsabilités gouvernementales en France. C'est une alliance entre les républicains modérés, les radicaux et les socialistes. Le premier gouvernement du cartel des gauches est d'ailleurs dirigé par un homme qui a suivi un peu la carrière de Bache, puisque c'est un intellectuel de province, mais lui est devenu avant tout un homme politique, c'est Édouard Herriot, maire de Lyon, qui entre dans la politique active à l'occasion de l'affaire Dreyfus et par le biais de la Ligue des droits de l'homme. Donc être président de la Ligue des droits de l'homme vers 1926, c'est certainement accéder à la plus haute responsabilité d'une association qui est à son apogée, par l'influence qu'elle exerce sur le personnel républicain et par l'efficacité aussi de ses interventions. En même temps, c'est une association qui est quand même, dès cette époque, partagée par la question de la Révolution d'octobre. Quel jugement porter en particulier sur les atteintes à la liberté individuelle en Russie bolchevique, comme on disait à ce moment-là, partagée sur le problème naissant du colonialisme. Victor Bache sera très prudent sur cette question, ne s'engagera pas clairement en faveur, par exemple, d'Abdelkrim. Mais il faut reconnaître que de la part du président de la Ligue des droits de l'homme, on ne pouvait pas attendre qu'il s'engageât si loin. Et évidemment, le grand problème qui se pose à la Ligue des droits de l'homme à partir de ce moment-là, mais qui au départ n'est pas un élément de division, qui le deviendra au moment du Front populaire, c'est le problème du pacifisme. Or, jusqu'à l'arrivée d'Hitler au pouvoir, on peut dire que le pacifisme est là aussi un ciment de la gauche depuis 1918. Très significativement, on peut dire que l'instituteur républicain, qui était quand même une sorte de stéréotype de type fondamental du républicain, était tout à fait patriote, voire un peu nationaliste en 1914, et qu'il est devenu massivement pacifiste en 1918. C'est une évolution qu'une bonne partie de la société française, pas seulement à gauche, a suivie entre 1914 et 1918-19. Je dirais peut-être même encore plus à partir du milieu des années 20, où on se rend compte qu'effectivement, plus jamais la France, l'Europe, l'Occident ne seront comme ils l'étaient avant. Il y a peut-être eu un moment de chauvinisme extrême au lendemain même de la victoire, dans l'enthousiasme du retour à la paix et du triomphe. Et je crois qu'une partie de l'opinion a sans doute, contrairement à ce que l'on croit souvent, évolué vers le pacifisme, non pas directement dans la guerre, mais en réfléchissant, dans tous les sens du mot réfléchir, les effets de cette guerre quelques années après. Et la Ligue des droits de l'homme en est évidemment le plus clair témoignage. Le pacifisme domine au sein de cette Ligue.
Alors, le pacifisme et puis le désarmement aussi entre l'Allemagne, par exemple, et la France.
Oui, le pacifisme dans la pratique se traduit par des tentatives de rapprochement avec l'Allemagne. Et Victor Bache, en tant que spécialiste de la culture allemande, est bien placé pour le tenter. C'est le moment où d'ailleurs des hommes qui sont assez loin de lui sur le plan philosophique, des chrétiens comme Marc Sangnier, créent les auberges de la jeunesse et travaillent au rapprochement franco-allemand. La Ligue des droits de l'homme n'est pas la seule. Et plus généralement, bien sûr, au désarmement, qui est un des grands thèmes de la Société des Nations. Il ne faut pas oublier que si la Société des Nations a finalement échoué, elle a été un grand espoir pour les hommes de gauche, et même parfois d'une gauche très modérée, dans les années 20. Seulement, elle était coincée entre les communistes, qui considéraient que c'était une assemblée bourgeoise, et puis la droite, qui s'en méfiait par nationalisme. Donc, l'idéologie genevoise, comme on disait, Victor Bache en est un très beau représentant, et il ne faut quand même pas oublier qu'elle a été un très grand espoir, et qu'au bout du compte, s'il y a quand même aujourd'hui l'ONU dont on se rend compte qu'elle n'est pas sans importance, qu'elle n'est pas le grand machin dont avait parlé Charles de Gaulle, c'est parce qu'il y a eu dans les années 20 des hommes comme Bache qui croyaient en son ancêtre, la SDN.
Donc dès 1932-33, la priorité, c'est quand même l'antifascisme.
Oui, la gauche se définissait d'emblée par l'antifascisme, ne serait-ce que parce que le fascisme se définissait d'emblée en Italie comme en Allemagne par son hostilité à la gauche. Il n'y a jamais eu d'ambiguïté de ce côté-là. Simplement, le fascisme italien paraissait, sans doute à tort, comme moins dangereux jusqu'à l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Le fascisme italien, il faut bien le voir, était moins impérialiste qu'il ne le fut à la fin, à l'exemple d'Hitler. Et surtout, beaucoup de bons esprits considéraient qu'après tout, c'était une forme parmi d'autres des régimes d'autorité latins. Quand Hitler arrive au pouvoir, alors même des hommes de droite, exemple Charles de Gaulle, Paul Reynaud, s'inquiètent et considèrent là que ça va être la revanche de la Première Guerre mondiale. C'est bien ce qui s'est passé. Du coup, l'antifascisme déborde la gauche socialiste ou radicale, va impliquer une partie d'une gauche très modérée ou de la droite modérée. Et la Ligue des droits de l'homme est évidemment en flèche dans ce combat. Elle contribue à l'accueil d'ailleurs de réfugiés antifascistes, d'abord italiens dans les années 20, puis allemands dans les années 30. Et puis en 1934, elle joue un rôle décisif, avec la revue Europe aussi de Jean Guéhenault et Romain Rolland, dans la constitution du comité de vigilance des intellectuels antifascistes. Le CVIA, comme on l'appelle assez vite, est intéressant à plus d'un titre, d'abord parce qu'il reprend le terme d'intellectuel, qui n'était pas si prisé que cela dans certains milieux, en particulier dans les milieux pacifistes, où on considérait que les intellectuels entre 14 et 18 avaient été au-dessous de tout. Donc le mot redevient à la mode, comme à l'époque de l'affaire Dreyfus. D'autre part, ce comité est symboliquement présidé par trois personnalités, qui sont le philosophe Alain, le physicien Paul Langevin et l'ethnologue Paul Rivet, qui en réalité, quand on décrypte le message, sont respectivement les représentants de trois familles politiques qui parfois se chamaillaient, dont deux d'entre elles étaient d'ailleurs à couteau tiré jusque-là l'une avec l'autre, les radicaux, les socialistes, bon c'était le cas de Rivet, le radical c'était bien sûr Alain, et les communistes avec Paul Langevin, qui n'était d'ailleurs pas membre du Parti communiste, qui était un compagnon de route à cette époque-là. Et c'était les communistes et les socialistes qui étaient en très mauvais rapport. C'est donc un signe de ce qui va se produire quelques semaines plus tard, c'est-à-dire l'union entre socialistes et communistes sur une base électorale d'ailleurs modeste, mais c'était un déclic. Et l'année suivante, en 1935, et là ressurgit Victor Bache aussi, cette alliance va s'élargir aux radicaux et devenir ce que l'on appelle officiellement le Rassemblement populaire. Et Victor Bache va jouer un rôle considérable, ainsi que toute la Ligue des droits de l'homme, dans la constitution du Comité national du Rassemblement populaire, dont la première manifestation consiste à appeler tous ses partisans à manifester solennellement le jour du 14 juillet 1935. Et le 14 juillet 1935, la France entière, pas seulement Paris, va manifester dans les rues. C'est très intéressant parce que on n'aurait pas imaginé les communistes, ni même d'ailleurs la plupart des socialistes, choisissant de manifester un 14 juillet. Aujourd'hui, ça nous paraît très étonnant, mais à l'époque, ça n'allait pas de soi. Le 14 juillet avait été récupéré par la droite nationaliste, et du coup, comme le drapeau tricolore, me paraissait entaché de sang. Et le fait qu'à l'initiative de gens comme Bache, qui avait l'énorme avantage d'être un patriarche renvoyant à l'histoire de l'affaire Dreyfus, on puisse choisir le 14 juillet pour manifester, c'était le signe, évidemment, d'un rapprochement. Et c'est tout le Front populaire, ça. C'est le fait que la main tendue soit désormais, en effet, tendue dans toutes les directions.
14 juillet 1936, une grande espérance et un commencement de réalisation de cette espérance. Fidèle à son serment, le Rassemblement populaire ne s'était pas dissous après l'inoubliable journée où avait communié dans un même et magnifique idéal des millions d'hommes et de femmes. Il avait au contraire resserré ses liens et s'était appelé à une œuvre constructive, l'élaboration d'un programme minimum qui précisa, explicita les mots d'ordre et indiqua comment les traduire dans la réalité politique, économique, financière et internationale. Pour la première fois depuis l'avènement de la République, tous les partis et toutes les organisations de gauche, oubliant ce qui les séparait, avaient réussi à s'entendre sur les revendications qui leur étaient communes. Ce gouvernement, depuis les 6 semaines, il est au pouvoir, a tenu ses engagements.
Ce sont les communistes qui font d'ailleurs le plus de concessions. Alors à partir de ce moment-là, la dynamique est lancée. Et je dirais que le rôle de Bache est un rôle symbolique, mais c'est important, un rôle symbolique. Il préside aux grandes réunions suprêmes, préside en particulier les réunions au cours desquelles sera élaboré non pas le programme, mais la plateforme minimum commune du Front populaire. Je crois qu'il joue un rôle non négligeable en ce qui concerne les articles de cette plateforme qui touchent aux questions de la laïcité, de la lutte contre les ligues factieuses, parce que c'est en quelque sorte son bagage intellectuel. Ce n'est pas tellement un homme de l'économique et du social. Et il faut d'ailleurs, en effet, dire que c'est simplement une plateforme limitée que certaines des grandes réformes du Front populaire n'y figurent pas, à commencer par les congés payés, qui sont une initiative de Léon Blum, quelques mois plus tard, au moment des grèves, quand il accède au pouvoir. C'est là qu'on voit d'ailleurs que la décision personnelle peut jouer un très grand rôle. Et donc Victor Bache a l'énorme avantage d'être la mémoire vivante, vive dirait-on aujourd'hui, du Rassemblement populaire, parce qu'il est toujours là, ça se voit dans ses articles des Cahiers des droits de l'homme, la revue de la Ligue, pour rappeler des précédents, pour rappeler pratiquement Gambetta, pour rappeler en tous les cas l'affaire Dreyfus, 1914, les grands combats, le cartel des gauches, l'affaire Sacco-Vanzetti. Et je dirais que on lui demande ça, peut-être pas d'abord, mais aussi. C'est la preuve que le combat du Front populaire s'inscrit dans une continuité. Or, c'est très conforme à l'esprit général du Front populaire, qui est un esprit de retour au patrimoine, sur le plan culturel comme sur le plan idéologique. Et sur ce plan-là, c'est une fin en beauté pour Victor Bache, qui écrit d'ailleurs des textes très émus à l'époque pour dire que, vraiment, en quelque sorte, il peut mourir heureux.
Madeleine Robériou, on peut dire que Victor Bache a fait preuve d'une extrême lucidité face à la montée du nazisme.
Oui, on a le discours qu'il prononce quelques mois après l'arrivée de Hitler au pouvoir, puisque le congrès, Hitler arrive au pouvoir au début de 1933, et le congrès de la Ligue se tient en juillet 1933, 6 mois après le précédent congrès. Pour une fois, c'est pas le hasard si le congrès a été convoqué aussi rapidement. Et Bache dit, dès juillet 1933, qu'il a le sentiment que ce n'est pas 6 mois qui sont écoulés depuis le précédent congrès, mais qu'on a changé d'époque. Et donc il a parfaitement conscience de ce que la victoire de Hitler représente. Il l'a par rapport aux Juifs, mais il l'a aussi par rapport aux organisations ouvrières, tout entières. Il fait état notamment des dizaines de milliers de communistes qui ont été mis en camp de concentration et condamnés, dont certains ont déjà été condamnés à mort, des socialistes dont les organisations ont été détruites, des syndicats dont les organisations ont été détruites. Et il se présente à ce moment-là comme le porte-parole de l'horreur, en somme, de la gauche tout entière et des antiracistes, devant l'avènement de Hitler. Et je crois qu'à ce moment-là, il y a chez lui une vision aiguë. On peut dire qu'elle est facilitée par le fait qu'il est d'origine juive, par le fait qu'il est d'origine autrichienne aussi. Hein, très sensible à ce qui se passe en Autriche, tout le temps. Autant à ce qui se passe en Autriche qu'à ce qui se passe en Allemagne. La chute des socialistes autrichiens est pour lui une véritable tragédie. L'arrivée au pouvoir de Dollfuss en Autriche en 1934 est pour lui une véritable tragédie. Avant même l'Anschluss, avant même le rattachement de l'Autriche à l'Allemagne. De ce point de vue-là, il a une vision extrêmement lucide de ce qui se passe. Et il se heurte, de ce point de vue-là, à d'autres hommes avec lesquels il pouvait avoir des divergences, mais ces divergences n'avaient jamais été aussi graves, et vont ainsi se constituer, à partir de 1933, de véritables tensions à l'intérieur de la Ligue qui vont aboutir à la constitution de ce qu'on appelle à l'époque une minorité et une majorité dans la Ligue. Du côté de la minorité, il y a des hommes qui sont extrêmement aimés dans la Ligue, inégalement aimés d'ailleurs, mais extrêmement aimés, comme Félicien Chalais, aimé pour la défense ardente des colonisés, y compris par ceux qui ne partagent pas toutes ses opinions sur la colonisation, comme Michel Alexandre, qui est un vieux ligueur, comme Léon Emery, un instituteur de Lyon, dont la popularité est certainement moindre que celle de Chalais, même que celle de Michel Alexandre, mais qui constitue, somme toute, une espèce de bloc. Leur analyse à eux ne revient pas naturellement à innocenter le nazisme, mais elle revient à dire que, nazi ou pas, au pouvoir ou pas, il faut à tout prix, maintenir les analyses qui portent sur les traités, être prêt à concéder à Hitler les concessions qu'on n'a pas été capable de faire, en somme, à la République de Weimar. Et elle revient de façon que Victor Bache perçoit souvent comme agressive, hein, comme très agressive par rapport à lui, à mettre en accusation la Ligue pour insuffisance de pacifisme. Et de ce point de vue-là, les congrès de 1933 et de 1934 sont particulièrement violents. en 1935 et en 1936, avec la montée du fascisme intérieur en France et la campagne pour le Front populaire, la Ligue parvient à faire voter deux fois le rapport moral à l'unanimité. En 1937, c'est la rupture définitive. L'avance nazie a pris de nouveaux aspects. Il est devenu, aux yeux de Bache et de ses amis les plus proches, évident qu'il faut constituer une force de résistance et que la Ligue doit participer à cette force de résistance qui est la force de résistance des démocraties occidentales, à laquelle, en 1937, Bache considère qu'il est indispensable d'ajouter l'Union soviétique. Et pour les autres, au contraire, dire cela, c'est faire avancer la guerre. Et la rupture devient terrible, complète. À la fin du congrès de 1937, le bloc des minoritaires quitte non pas la Ligue, mais le comité central.
Cahier des droits de l'homme, 20 février 1934. Le fascisme ne passera pas. Je l'ai affirmé au congrès national de Biarritz de 1930. Si le fascisme larvé sous l'empire duquel nous vivons ôtait son masque, si vraiment nos maîtres osaient des actes de fascisme patents, vous verriez si les vieux que nous sommes n'auraient pas assez d'énergie pour se dresser contre la hideuse dictature et pour entraîner derrière eux le peuple. Et il y a quelques mois encore, au Congrès national de 1933 à Amiens, je l'ai répété. Il pourrait arriver un moment où la peste fasciste, après avoir envahi tant de pays, tenta de pénétrer dans le nôtre. Je ne le crois pas, quant à moi. Je crois que l'idée républicaine est trop profondément enracinée dans ce pays, que l'accoutumance à la liberté y est trop forte, que l'attachement à la démocratie, même à la démocratie imparfaite, mutilée, qui est la nôtre, est trop étroite pour que ce fût possible. Mais si vraiment cette contagion se produisait, si vraiment des tentatives étaient faites pour implanter la hideuse dictature chez nous, si vraiment un pseudo-Mussolini, un pseudo-Hitler se dressait chez nous, est-ce qu'alors nous, les légalitaires, nous, les hommes à l'action molle, nous, les bonzes aux rites désuets et les vieillards aux mains tremblantes, est-ce que nous ne lancerions pas le mot d'ordre que le moment était venu de descendre dans la rue ? La République a été en danger, nous l'avons défendue. La République est en danger, nous la défendrons jusqu'à notre dernier souffle et la dernière goutte de notre sang. Victor Bache, président de la Ligue.
Victor Bache ne se laisse pas abuser par les discours d'Hitler, car il a déjà pressenti qu'avec lui, c'est la mauvaise Allemagne qui parle. Christian Gelen.
Victor Bache a toujours fait partie de ces intellectuels français qui ont toujours distingué entre la bonne Allemagne, c'était l'Allemagne des philosophes, l'Allemagne des musiciens, l'Allemagne de Kant, de Beethoven, et puis l'Allemagne belliciste, guerrière, la mauvaise Allemagne, n'est-ce pas ? Et il a toujours cru que la bonne Allemagne l'emporterait sur la mauvaise. Maintenant, Victor Bache était un spécialiste de la civilisation allemande et lisait la presse allemande. Dans la Ligue des droits de l'homme, on a lu Mein Kampf très tôt. Et dès 1933, dès l'avènement d'Hitler, la Ligue des droits de l'homme a consacré des séances entières pour décortiquer ce qu'il y avait dans Mein Kampf. Et par conséquent, là aussi, on voit qu'il n'y avait pas besoin de la radio ni de la télévision, telles qu'elles existent aujourd'hui, pour savoir à quoi s'en tenir sur un dictateur. Et il y a des séances tout à fait extraordinaires où tout ce qui est dit dans Mein Kampf est décortiqué, annoncé, et par conséquent, au fond, qui voulait savoir sur Hitler en France pouvait le savoir dès 1933. Et ça, c'était le travail de la Ligue des droits de l'homme.
Je suppose qu'il y avait aussi des nouvelles par les exilés ou bien par les réfugiés.
Oui, d'abord, il y avait une Ligue allemande des droits de l'homme qui a été aussitôt proscrite dès l'avènement d'Hitler. Et au fond, dès les premières semaines après l'arrivée au pouvoir d'Hitler, on possédait à la Ligue des droits de l'homme de très nombreuses informations sur toutes les exactions qui avaient déjà été commises, sur les emprisonnements, sur l'ouverture de camps de concentration. On savait.
Mais à l'intérieur de la Ligue, certains vont se voiler les yeux, vont dire « c'est faux, on raconte des histoires, on nous ment » et la Ligue va se diviser en quelque sorte.
Oui, c'est-à-dire que je crois que pour comprendre ce qui s'est passé, il faut revenir sur ce qu'a été la Première Guerre mondiale pour la France. C'est vrai que ça a été un cauchemar épouvantable. Il y a eu, comme vous le savez, plus d'un million de morts, des centaines de milliers de blessés, de handicapés. Il y a eu la guerre des gaz. Et par conséquent, il y a eu un courant d'opinion qui a commencé à dire cette guerre a déjà été tellement épouvantable, la prochaine sera pire encore. Ça sera un cataclysme terrible. La guerre chimique va se généraliser. Ça sera un suicide de l'humanité. Et peu à peu, ce discours qui a été amplifié et soutenu même par des grands savants comme Paul Langevin, par exemple, aboutissait à dire plutôt l'esclavage que la guerre, parce que de l'esclavage, on en sort vivant, tandis que de la guerre, on en sort les pieds devant. Et ce discours a commencé à influencer une partie nullement négligeable de l'intelligentsia. Et à chaque agression d'Hitler, à chaque menace d'Hitler, il y avait un courant qui préconisait l'accommodement, l'apaisement, en invoquant toujours le risque de la conflagration mondiale. Et plus on s'est approché de 1939, et plus ce courant s'est montré pacifiste, pacifiste à tout prix. Et pour justifier ce pacifisme, alors il y avait toute une série d'arguments qui étaient invoqués. La Ligue des droits de l'homme, c'était une organisation de gauche, où l'idée socialiste était forte. Alors un certain nombre de ces gens ont fait des voyages en Allemagne, et puis ils ont commencé à voir du socialisme. Par exemple, l'État avait pris en main des grands travaux, donc avait réduit de façon drastique le chômage. La Banque d'Allemagne s'était souvent substituée à l'initiative privée ou contrôlait l'initiative privée. Alors on voulait entrevoir du socialisme. Par conséquent, on disait l'Allemagne nazie, c'est pas seulement Hitler, c'est aussi un début de socialisme en construction. Et c'était un alibi que l'on invoquait pour se cacher les yeux. Au fond, après la déclaration de la guerre et après l'occupation de la France, un certain nombre de ces pacifistes de gauche, on les a retrouvés dans les arcanes de Vichy. Et eux aussi, ils ont cru que par le biais de l'Allemagne, nazie, national-socialiste, on pourrait construire un début de socialisme en France. Et c'est l'argument qu'ils invoquaient pour justifier leur engagement. À l'inverse, Victor Bach et des gens qui partageaient ses opinions ont toujours adopté la même attitude, c'est-à-dire que devant un agresseur, on doit se montrer ferme, on ne recule pas. Parce que si l'on recule, il arrivera un jour où la liberté sera supprimée et au fond, rien ne vaut le fait de vivre libre. Et puis ces gens-là, ils ont abouti après 40 dans la résistance. C'est ça l'enjeu majeur de ces conflits des années 30.
Mêlant philosophie et politique, nourrie de deux cultures, Victor Bach ne cessera d'admirer et de défendre l'âme allemande, Elisabeth de Fontenay.
Son rapport à l'Allemagne est quelque chose de très émouvant. C'est ça l'origine de ce livre, un livre qui a pour titre « Les doctrines politiques des philosophes classiques de l'Allemagne ». C'est qu'il a reçu une éducation allemande, par sa famille et par l'université de Paris, par Boutroux, et que soudainement, la guerre de 14 a fait que le philosophe qui leur enseignait la philosophie allemande, pris par un patriotisme délirant, tout à coup se retourne contre l'Allemagne. Et Victor Bach écrit ce livre où il explique calmement, inlassablement, que Leibniz, Kant, Fichte et surtout Hegel ne sont en aucun cas les précurseurs ou les fourriers du pan-germanisme et de l'impérialisme. Et c'est bouleversant parce qu'il est absolument évident que si la milice ne l'avait pas assassiné, s'il avait survécu, il aurait redit la même chose à la Libération. Leibniz, Kant, Fichte et Hegel ne sont pas les précurseurs du nazisme. Alors on peut, si l'on veut, dire que c'est la bonne Allemagne contre la mauvaise Allemagne. Moi je n'aime pas beaucoup cette terminologie, car je pense que Victor Bach a été profondément sensible aux ambiguïtés de la génialité allemande. Et que c'est ça qu'il a aimé, et c'est cela qu'il a essayé de transmettre dans sa sublimité et sa dangerosité à la culture française.
Victor Bach, il s'est tu sur les procès de Moscou parce
non,
qu'il...
il ne se tait pas. Non. Il prend la parole dans le cadre du congrès de 1937. La Ligue a confié à un avocat de la Ligue, bien connu, qui s'appelle Rosenmark, qui n'était en aucun cas communiste ni sympathisant communiste. C'est lui auprès de qui s'est formé le père de Pierre Vidal-Naquet. Et on a confié à Rosenmark le soin d'un rapport, d'une enquête sur les conditions dans lesquelles s'étaient déroulés les deux premiers procès, les procès de 1935 et les procès de 1936. Ceux de 1937, ce n'est pas possible, ils sont en train de se tenir au moment où se tient le congrès. Et c'est Rosenmark qui vient devant le comité central d'abord, puis devant le congrès, présenter ses conclusions. Et ses conclusions sont très claires. Il dit que lui, d'après tout ce qu'on lui a dit, tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a lu, les détenus, ceux qui vont être condamnés à mort, se sont reconnus coupables en séance publique. Et il développe la thèse selon laquelle l'aveu en audience publique, comme on dit en termes de procès, a valeur de preuve dans le droit français absolu et dans tous les droits européens, et y compris dans le droit soviétique. Il dit d'autre part qu'on n'a pas eu la preuve pendant les congrès qu'ils avaient été maltraités. Ils sont apparus en bon état physique. Et il dit, dans ces conditions, moi j'étais là comme un technicien, techniquement parlant, voilà ce que j'ai vu. Alors, les positions de Bach sont, une fois de plus, un peu, je dirais, centristes. Il dit qu'il a été extrêmement ému par ses aveux répétés, par ces hommes qui s'accusent eux-mêmes, plus encore que l'État soviétique, que la justice soviétique ne les accuse. Il dit qu'il a été troublé psychologiquement et qu'il a du mal à admettre que ces hommes étaient en effet coupables, comme ils l'ont avoué. Il reconnaît néanmoins que les positions de Rosenmark, auxquelles l'enquête, l'homme auquel l'enquête a été confiée, sont parfaitement solides. Alors la position de Bach, elle consiste à dire « Nous aurions peut-être pu demander une contre-enquête. Il faut savoir que la Ligue est la seule organisation, la seule, qui a constitué une enquête sur les procès de Moscou. Aucune autre organisation démocratique n'a constitué d'enquête. Il y a des individus, des dissidents communistes, des trotskistes, qui ont poursuivi une enquête à titre individuel. La Ligue est la seule organisation. Et il dit, dans ces conditions, ce que je propose, c'est que l'enquête soit poursuivie, qu'elle ne s'arrête pas, qu'elle soit poursuivie. Dans l'état actuel des choses, il fait quand même voter le rapport Rosenmark. Il ne s'agit pas de déconsidérer Rosenmark. Et il fait voter sur son rapport. Ce que dit Bach aussi, et là on sent bien, en réalité, les thèmes profonds, Bach dit, rendez-vous compte que depuis un an et demi, nous avons eu d'autres choses sur les bras que les procès de Moscou. Nous avons eu la guerre d'Espagne. Nous avons eu, nous, la Ligue, à organiser avec le Secours Rouge, avec les syndicats enseignants, etc., l'accueil à ces centaines de milliers d'enfants, de femmes qui fuient l'Espagne. Et l'Espagne, c'est à nos frontières. Ces enfants-là, ces femmes-là, nous avions à les aider. C'était notre tâche. Nous avons été complètement absorbés dans cette tâche. Et ils disent, si même nous aurions pu peut-être organiser, demander un complément d'enquête, nous allons le conduire maintenant. Mais jusqu'à présent, notre grand problème à nous, ça a été l'antifascisme, une fois de plus. Cette fois-ci, l'antifascisme face à la guerre d'Espagne, face à la révolte fasciste de Franco. Et on comprend bien qu'en réalité, c'est l'antifascisme qui, à chaque instant, est prioritaire pour Bach et pour l'écrasante majorité de la Ligue. Une majorité qui s'accroît d'année en année. Hein ? Et dans le cadre de laquelle les positions défendues par les pacifistes intégraux s'affaiblissent, parce qu'elles apparaissent comme finalement cédantes au fascisme.
Yves Jouffa, actuel président de la Ligue des droits de l'homme.
Lorsque se sont produits les procès de Moscou, les premiers procès, la Ligue n'a pas eu l'attitude qu'elle devrait avoir et qu'elle aurait certainement, enfin qu'elle a eue par la suite, sous les présidences de Daniel Meyer, d'Henri Noguer et ensuite de moi. Parce qu'il semble que les majoritaires de la Ligue étaient conscients de ce que ces procès étaient des procès truqués, scandaleux, etc. Mais craignaient à l'époque d'affaiblir le front antifasciste. C'est une explication, ce n'est pas une justification. Et certains reprochent à la Ligue, et à mon sens, à juste raison, de n'avoir pas eu une attitude assez nette à l'époque. Par contre, au moment du pacte germano-soviétique, Victor Bach, naturellement, a été sans aucune ambiguïté.
Plus on se rapproche de 1939, plus Bach a conscience que l'Allemagne nous conduit droit à une deuxième guerre mondiale. Et aussi bien dans la guerre d'Espagne qu'au moment de Munich, il est de ceux qui sont en première ligne pour dénoncer le danger allemand et dire « il faut le stopper ». Il est de ceux qui estiment qu'une éventuelle guerre mondiale se joue, si vous voulez, à Madrid et à Prague. Et par conséquent, dans les deux cas, il est partisan d'intervenir. Dans un premier temps, il essaye de mettre en mouvement la Société des Nations. Il essaye de rappeler qu'il faut essayer de faire jouer le droit international. Mais naturellement, la Société des Nations à l'époque, c'est une coquille vide, je veux dire un fantôme qui n'a plus aucune existence réelle. Et quand Bache en prend complètement conscience, alors il est partisan d'envoyer des troupes, une aide militaire en Espagne et aussi au moment de Munich. Il voudrait que l'alliance entre les démocraties et l'Union soviétique joue à plein pour contenir le danger allemand et le danger fasciste. Et au moment de la guerre d'Espagne, Bache, qui admire profondément Blum, est en complet désaccord avec le chef du gouvernement du Front populaire, lorsque lui-ci cède aux injonctions des Britanniques et refuse d'intervenir directement en Espagne. Et ça, je crois que c'est l'époque où Bache est complètement déchiré, parce que je crois qu'il est d'une lucidité terrible.
À Marius Moutet, Lyon, 1943. Mon cher ami, si je réponds aujourd'hui seulement à ta bonne et copieuse lettre, c'est que les suites de mon opération ont été beaucoup plus graves et plus longues que nous ne l'avions supposé. Je n'ai pas besoin de te dire avec quelle infinie tendresse ma femme et ma fille se sont vouées à moi. La présence de ma belle-fille, la bonne Samaritaine, a été une bénédiction. Ta lettre donne de ta vie et de ton état d'esprit une image somme toute satisfaisante. Et tu as le temps de lire et de te cultiver. Je me demande où tu te procures des livres comme ceux des poètes modernes. J'ai fait naguère des cours sur la poésie qui m'ont été enlevés comme tous mes livres et toutes les notes accumulées depuis 60 ans. J'ai cependant beaucoup lu à la clinique. Avant l'intervention, j'ai étudié de près les œuvres de William James et de Durkheim sur la religion. Le livre de ce dernier sur les formes élémentaires de la vie religieuse est un chef-d'œuvre. D'autre part, des ouvrages de philosophie politique, l'admirable « Démocratie en Amérique » de Tocqueville, la théorie générale de l'État de Bloomsley, nous avons tous le devoir de réfléchir à nouveau sur l'essence de la démocratie et surtout sur les moyens de la réaliser dans son immortelle vérité. Des problèmes de première importance vont se poser à ceux qui seront chargés de reconstruire le pays. J'ai été amené ainsi à me demander si les hommes, depuis 1848, ne s'étaient pas trompés en proclamant et en réalisant le suffrage universel sans aucune restriction ni aucune condition intellectuelle et morale. Je sais bien que toucher à cette conquête de la démocratie apparaîtrait comme une sorte de sacrilège. De même, j'ai réexaminé le problème de la représentation proportionnelle. Je suis toujours proportionnaliste, mais nous n'aurions jamais dû permettre que la moitié de nos concitoyens, les élections les plus favorables pour les gauches, celles de 1936, n'ont donné qu'une toute petite majorité à l'élection, se vit refuser sa part équitable de représentation. N'est-ce pas une véritable dérision que de proclamer d'une part le suffrage universel et de l'autre de ne pas permettre à l'opposition de participer à la représentation nationale? Telles sont quelques-unes des questions que je me pose et que je voudrais que posassent les futurs reconstructeurs. Je m'en suis posé nombre d'autres, mais ce sera pour une autre fois. J'ai été obligé de me reprendre à plusieurs reprises pour écrire ces quelques lignes. Bon souvenir à ton fils, s'il est encore auprès de toi, et pour toi, une fraternelle étreinte de ton vieil ami. Victor.
On a coutume de dire que Victor Bache fut le plus grand président de la Ligue des droits de l'homme. C'est vrai qu'il s'est trouvé à une période de l'histoire particulièrement difficile. Cependant, aujourd'hui, c'est quelqu'un de peu connu, Yves Jouffa.
C'est vrai. Mais vous savez, il m'arrive de faire des conférences en province et d'avoir certains de vos jeunes confrères qui me disent « Mais au fond, la Ligue des droits de l'homme, c'est quoi ?» On ne l'a pas mis à la place qui devrait être la sienne, car ça a vraiment été un grand combattant des libertés. Et tout cela s'est terminé d'une façon atroce, mais très belle finalement. Quel combattant des libertés ne souhaiterait mourir comme cela ? 81 ans, malade, plus ou moins caché, résistant. La milice qui arrive un matin dans l'appartement où elle s'était réfugiée à Lyon, qui lui intime l'ordre de les suivre. Sa femme, que les miliciens ne voulaient pas emmener, qui exige de partir avec son mari. Et ces deux vieillards assassinés par des voyous de la milice au coin d'une route. Je trouve que c'est à la fois très émouvant et très beau.
Mais est-ce que cette mort ne fait pas de lui un héros de légende ?
Un peu. Et cette mort qui fait en effet de lui un héros de légende, me fait penser à un autre moment de sa vie, c'est lorsqu'il est allé à Madrid, en pleine guerre d'Espagne. Certains de ses amis de l'époque ont dit qu'au moment où il est parti, il leur avait fait cette confidence, comme ce serait beau pour moi de mourir dans un accident d'avion en allant sur le front républicain en Espagne. Vous savez d'ailleurs que Victor Bach, qui avait pour Léon Blum des sentiments à la fois d'admiration et d'affection, s'est trouvé en très grande opposition avec Léon Blum. Et on raconte que lorsque Victor Bach, à la tête d'une délégation de la Ligue des droits de l'homme, est allé voir Léon Blum, c'était déjà à Matignon, je crois, il a violemment reproché à Léon Blum sa politique de non-intervention, et on dit que Léon Blum l'a regardé les larmes aux yeux et ne lui a pas répondu. Sur un certain nombre de problèmes qui sont très d'actualité, ces réactions ont été des réactions de novateurs, de précurseurs, par exemple sur le problème du droit des femmes. Je ne suis pas sûr que sur le plan personnel, il ait eu la même attitude. Mais enfin, laissez-moi vous dire que c'est une chose assez fréquente, malheureusement, de la part des hommes. Mais il a pris position très nettement à une époque où ce n'était pas tellement courant pour l'égalité des femmes. Il parle du massacre des Arméniens, des persécutions antisémites de Roumanie, enfin de quantité de problèmes qui ressurgissent maintenant et qui ont déjà été dans les préoccupations de la Ligue des droits de l'homme et de son président Victor Bach il y a un demi-siècle.
Marianne Bach.
Mon beau-père est tombé malade à peu près en 42. Il a été et en 43, je crois que c'est en 43 qu'il a été opéré d'un cancer de la prostate, opéré, réopéré, ce qui fait que la dernière fois que je l'ai vu à la Toussaint 1943, il souffrait d'une façon atroce. Ce qu'il a exprimé d'ailleurs dans une lettre à mon père qu'on a retrouvée. Il réfléchissait d'ailleurs sur le mécanisme de ses douleurs, sur la façon de les supporter, philosophant sur son propre état. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a dit « Il est inadmissible que nous, vieillards, nous mourions dans notre lit, cependant que les jeunes se font tuer, c'est nous qui devrions être en première ligne ». Et c'est la dernière chose qu'il m'a dite. À cette époque-là, en réalité, il y a un moment où il aurait dû se cacher, parce que moi, je lui ai proposé à la Toussaint, justement. D'ailleurs, j'avais enlevé ma fille à sa grande fureur de Lyon en été 43, parce que les Allemands avaient occupé la zone libre en fin 42 et que je trouvais que c'était trop dangereux. Mais il n'a pas voulu. Moi, je voulais le faire entrer en clinique et dans un endroit où il n'aurait pas été connu. Il y a une chose que je ne vous ai pas dite, c'est qu'on a perquisitionné dans son appartement le jour de l'entrée ou le lendemain de l'entrée des Allemands à Paris et où on a pris tous les papiers. Il l'a deviné avant de le savoir. Il a dit que ça serait comme ça et nous pensions qu'il délirait un peu. Et on a reçu une carte racontant de leur employé de maison qui leur était toute dévouée et disant qu'on était venu perquisitionner.
Et on avait tout détruit.
On avait tout emporté.
Emporté.
On avait emporté tous les papiers et les livres et on ne les a pas retrouvés.
Est-ce qu'il avait des nouvelles il recevait des réfugiés venant d'Allemagne. Est-ce que déjà on pressentait ce qui se passait dans les camps nazis ?
Pendant l'occupation ? Je ne crois pas que lui et que mes beaux-parents aient été au courant. C'est très difficile à dire. Moi, je
pensais qu'il est mort sans connaître ces horreurs-là ?
Sans connaître véritablement le... Non, je ne crois pas qu'il l'ait su. Je crois qu'il y avait pas mal de gens qui le savaient en France, mais je ne crois pas qu'il l'ait su. Mais ce qu'il a su, c'était les camps qui existaient en Allemagne avant la guerre. Parce qu'enfin, si vous voulez, dans l'endroit où j'étais, moi, dans une petite ville de la vallée du Rhône, il y avait un député socialiste qui avait, en camp de concentration, perdu toutes ses dents, qui avait pu être libéré et qui était venu se réfugier là. Et on savait parfaitement ce que c'était. Par conséquent, de là à penser... Mais la déportation en masse des Juifs, les histoires du Veldiv et tout, je ne crois pas qu'il l'ait su, mais...
Et son arrestation, vous étiez proche de lui, là, vous étiez présente ?
Moi, j'étais en fuite, parce qu'on était venu m'arrêter, et j'avais pu m'échapper. Et donc, j'étais dans la nature... Mais mon neveu était à Lyon, mon neveu, l'aîné, Francis Alvax, et ils ont été prévenus le lendemain, parce qu'on a trouvé les corps. On a su aussi ce qui s'est passé, parce que nous avions des amis auxquels j'avais sous-loué l'appartement qui était destiné à mes beaux-parents. Comme je ne m'étais pas installée. Bon, donc, il y avait des gens dans la maison auxquels les miliciens français ont intimé l'ordre de ne pas montrer le bout de leur nez, mais qui ont su qu'ils étaient là et qui les ont vus partir. Il y avait deux voitures et ils ont vu qu'on les emmenait. Et je ne sais pas si... Je n'en suis pas sûre, mais je crois qu'ils ont entendu ma belle-mère dire que lui ne partirait pas sans elle. Ils sont partis tous les deux, on les a retrouvés à 7 km de là. Par conséquent, ils ont été abattus très vite.
C'était au petit matin ?
C'était la nuit. C'était le soir, oui. Et on a trouvé leur corps le lendemain matin. Mais on a su aussi, parce que l'individu qui a mené l'affaire, c'était pas Touvier,
non.
C'était l'Écussant. L'Écusson, qui était un ancien officier de marine, et il s'en est vanté. Il a écrit un opuscule. Alors, moi, je suis sûre d'avoir eu cet opuscule entre les mains. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. C'était imprimé. Et je croyais que ça avait été fait, écrit, entre le 10 janvier de 44, date de l'assassinat, et la libération de la France. Ensuite, on a dit qu'il a écrit ça en prison. Moi, ça m'étonne. Je crois qu'il s'est vanté. C'était intitulé « Pourquoi j'ai tué Victor Bache ?» Et je crois qu'il s'en est vanté, que c'était vraiment un type complètement inconscient.
À Néron, près du viaduc de l'autoroute, on a dressé un monument dédié à Hélène et Victor Bache. Profil perdu, Victor Bache, une émission d'Anis Clément avec Marianne Bache, Madeleine Reberioux, Pascal Horry, Christian Gélène, Elisabeth de Fontenay, Yves Jouffa et la voix de Victor Bache. Merci à Françoise Bache pour sa participation à l'élaboration de cette émission. Texte dit par Jean d'Outremay. Mixage Josette Etier, Françoise Prudon. Réalisation Arlette Dave. Dans leur livre, un certain Monsieur Paul, l'affaire Touvier, Laurent Grelzamer et Daniel Schneiderman retracent l'assassinat de Victor Bache et de sa femme par la milice lyonnaise.
Cette émission a été diffusée la première fois le 14 mars 1991 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.